marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
La marche de l'histoire, Edmond R.
Edmond Rostand, oui, sa devise, lui, c'était plutôt du genre « Sauvez votre peau, sacrifiez-vous
». Le théâtre est un lieu qui vous arrache à vous-même.
Edmond Rostand.
Nous nous promenions dans le parc quand, tout d'un coup, un pigeon était étendu, mort. Il y avait 200 pigeons blancs, nous avons trouvé 150 cadavres. Rostand marchait sur ses ailes blanches inertes en disant « Oh, oh !» C'était naturellement le 10 novembre, nous entrons dans une petite pièce où il y avait un feu de bois. Et tout d'un coup, un claquement sur la vitre, on se retourne par la porte-fenêtre, arrive un pigeon titubant. Il arrive et il vient mourir devant le feu au pied de Rostand.
C'est l'automne 1918. Edmond Rostand est une dernière fois à Arnaga, sa maison du Pays Basque. Ce n'est pas une maison, c'est une île où il se tient tour à tour pelotonné ou le cou tendu vers l'horizon. Il s'y est rendu en compagnie de Marie Marquet, qu'on vient d'entendre, son ultime conquête au bout d'une vie amoureuse et familiale compliquée. Et c'est l'armistice du 11 novembre. Il est de retour à Paris. Il meurt le 2 décembre, anniversaire d'Austerlitz. Le public du théâtre, si important à l'époque, l'avait fait roi en 1897 avec Cyrano. Après l'Aiglon, l'Académie l'avait élu à 33 ans. La Troisième République l'avait recruté pour incarner dans son œuvre et sa personne le panache des différentes époques de l'histoire de France. Et puis, était venu l'effroyable gâchis de 14-18. Rostand aimait l'honneur et la gloire, certes, mais pas la guerre, et surtout pas la guerre moderne, qui fauchait mécaniquement les jeunes hommes qui s'étaient reconnus dans son goût de la singularité. Avec cette guerre s'effondrait le monde dont il avait été l'illustration. Avant même que la grippe espagnole ou la pneumonie ne le touche, il n'était plus. Sigy, Hercule Savinien, de Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec François Taillandier qui publie un Edmond Rostand aux éditions de l'Observatoire, bonjour.
Bonjour.
Juste un mot de Marie Marquet qu'on va entendre de nouveau, parce que c'est un bonheur que d'écouter cette comédienne. Elle a 20 ans quand elle rencontre Edmond Rostand qui en a 47, et c'est Sarah Bernard qui l'a poussée vers Edmond Rostand.
Oui, on a presque cette impression. Sarah Bernard fait confier à cette toute jeune actrice le rôle de l'Aiglon pour une reprise, un rôle extrêmement difficile. Et oui, on se demande si elle ne pousse pas Marie Marquet dans les bras d'Edmond Rostand.
Bah, il vaut mieux avoir, pour relever le rôle de l'Aiglon qu'elle a tenu, une jeunette plutôt qu'une concurrente.
Voilà, une jeunette plutôt qu'une rivale, oui, c'est ça. Il y a peut-être de ça.
Le récit, peut-être un peu orné, mais enfin c'est l'époque où on aimait l'ornement et les franges de Marie Marquet de la première rencontre avec l'écrivain en 1915.
Rostand me fait téléphoner au théâtre qui serait très heureux de me voir dans le costume blanc. J'ai dit à mon habilleuse que le costume noir était plus amincissant, parce que déjà à 20 ans, je promettais. Et je monte en voiture et je suis arrêtée au coin de la place de l'Alma par deux vieux sergots, mais vous savez, deux rôles de composition un peu chargés. Halt, ils me font. Pour papier. Alors je descends, moi, je descends. Et en plein clair de lune, j'apparais. Il pousse un cri, un Allemand ? Mais je lui ai dit non, un Autrichien. Faut pas qu'il... J'ai dit, mais je suis une comédienne qui joue l'Aiglon. L'Aiglon, l'Aiglon, où ça ? Il dit, au théâtre sera Bernard. L'Aiglon d'Edmond Rostand. La colère me prend, j'arrache ma perruque, j'avais des cheveux qui me descendaient à la taille. Un blond magnifique, je dois dire, bon cendré, merveilleux, Mélisande. Ils sont restés stupéfaits, ils m'ont conduit très respectueusement jusqu'à la porte. Quand je suis arrivé, Rostand m'a vu entrer en Mélisande aiglonnée, c'était insensé.
Mélisande aiglonnée, oui, le costume du duc de Reichstadt, c'est celui de l'uniforme d'officier autrichien blanc. Alors, cette Mélisande aiglonnée, elle sait ce qu'elle peut donner à Edmond Rostand, et au bout d'un, deux, trois, quatre dîners que vous racontez, François Taillandier, elle lui apporte sa jeunesse. Et vous, qu'est-ce que vous avez à apporter à Edmond Rostand? Parce que vous dites de l'outre-tombe, il me semble qu'il me demande ce livre.
Oui, c'est peut-être absurde et superstitieux, mais bon, moi j'ai connu et aimé Edmond Rostand, à travers son œuvre bien sûr, tout jeune, et j'ai toujours eu le sentiment que c'était un illustre méconnu. Alors tout le monde connaît et aime Cyrano, en général je connais personne qui n'aime pas Cyrano, moi, mais du coup, Edmond, on ne voit plus. Et je trouve que quand on regarde qui il était, puis quand on regarde d'abord le reste de son œuvre, et puis qui il était, moi c'est une personnalité pour laquelle j'ai une sorte d'attachement. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Et j'ai eu le sentiment que oui, il fallait lui rendre justice, et en tout cas essayer de montrer qui il était.
Alors vous lui apportez votre fidélité, puis votre sincérité. Il y a certains moments où à la lecture de Rostand, vous vous dites bon. C'est contestable.
Ah ben oui.
D'autres
oui.
Même où vous vous dites c'est ridicule.
C'est pas une œuvre incontestable. Il y a de très très belles choses. Je crois que c'est un grand poète en réalité. C'est un immense auteur dramatique et c'est un grand poète. Bon, gâché par un peu son époque, une espèce de mièvrerie un peu entortillée, un peu tarabiscotée, qui est vraiment la marque de son époque en architecture, en mobilier, en tout ce qu'on veut. Bon, alors je le regrette. Alors des fois, oui, je me dis, mon pauvre Edmond, enfin, vous auriez pas dû faire ça, quoi. Hein. Mais il y a tellement d'endroits où c'est beau et bouleversant.
Alors sa jeunesse est une jeunesse boutonnée. Ce que vous pouvez comprendre, parce que vous, même si vous êtes venu à la conscience autour de 1968, vous étiez un peu un adolescent d'autrefois. Vous avez toujours été un peu anachronique, François Taillandier.
Oui, je crois.
C'est un compliment, anachronique.
Je crois, oui, ouais. Oui, oui.
Alors, une jeunesse boutonnée, et c'est un poète qui ne fréquente pas les cénacles, plutôt quelqu'un qui va au dîner mondain.
Oui, c'est ce qu'on peut savoir de lui. Il est d'une grande famille de la bourgeoisie marseillaise, d'une grande bourgeoisie libérale, cultivée, etc., etc. Et Edmond Rostand, en effet, ne joue jamais au poète crotté, au poète maudit. Il fait un très bon mariage à Paris et il s'arrange toujours pour fréquenter ce qu'il y a de bien dans la société, quoi. Et tout ça sans donner l'impression d'être un arriviste, mais c'est comme ça pour lui. Il est conforme à son milieu.
Nommons sa femme parce qu'on la retrouvera. Elle est un peu en retrait au temps de Marie Marquet. Elle s'appelle Rosemonde Gérard.
Oui.
Gérard, Baron Gérard, le peintre.
Oui, alors donc, elle descend de maréchal d'Empire. Et son père, donc son grand-père est maréchal d'Empire. Et son père, un certain Baron Gérard, alors je n'ai pas tous les détails sur lui, c'est un homme qui a une grande fortune qu'il lui laisse. Mais elle est une fille légitime, attention. Elle est une fille illégitime.
Je crois que le baron Gérard, quand il a perdu la faveur du pouvoir après la monarchie de Juillet, s'est jeté dans la Seine. De même que le père d'Edmond Rostand, ne se suicidera pas lui, mais enfin, versera l'aliénation à la fin de sa vie.
Il y a des secrets de famille.
Même dans les meilleures familles.
Oui, absolument.
Le premier recueil de poèmes, alors vous allez me dire si c'est ridicule, ça, musardise. J'avais pu me mettre à vos genoux dans l'herbe, et j'avais laissé mon rocking chair se balancer tout seul.
Oui. Oui. C'est très joli.
Ah bon.
Voilà, c'est le problème de Rostand. Moi, j'adore ce poème qui s'appelle Le souvenir vague, oui.
Ouais.
Oui. Nous étions ce soir-là sous un chêne superbe, etc. C'est très joli. Et c'est presque trop joli parce que dans une époque qui a vu passer Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, ce genre de jolie poésie. Alors moi, ça me touche beaucoup, j'adore ça, je connais ces vers par cœur. Je me dis quand même. Hein.
Sarah Bernard s'intéresse au jeune auteur de théâtre. Elle lui demande en fait d'être son fournisseur. Oui. Et c'est quand même un fournisseur qui met au point des produits dès la plus extrême jeunesse, qui nécessite beaucoup de moyens. La princesse lointaine, c'est une nef. Oui. En plus, le mât est cassé. C'est plein de rameurs. Et on va vers la terre promise à la recherche de Mélisinde, la princesse lointaine. Oui. Il faut tout de suite du théâtre total, alors qu'il n'a pas écrit encore pratiquement.
Non. Rostand et Sarah se retrouvent sur cette idée. Elle adore le somptueux, le grandiose, il lui faut les beaux décors, il lui faut des tas de figurants, des beaux costumes, enfin, elle aime ça. Et Rostand, oui, lui aussi. Il ne peut pas concevoir une pièce de théâtre s'il n'y a pas 5 décors, 30 figurants, les costumes qui coûtent cher. Il aime le splendide. Voilà. Alors que c'est un homme très discret, modeste, d'après ce qu'on sait de lui. Sûrement quelqu'un de timide même. Mais alors, au théâtre, il lui faut du grand, du sublime.
1897, il a 29 ans, quand est donné Cyrano. Là, c'est une pièce coproduite avec Rosemonde Gérard, sa femme. Et pas avec Sarah Bernhardt, bien sûr, mais avec un acteur, avec Coquelin, qui a besoin de sa pitance, qui veut lui aussi un fournisseur. C'est une pièce écrite en courant, expliquez-vous.
Oui.
L'acte 5 n'est pas fini quand on a commencé les répétitions, et c'est une pièce qui repose pourtant sur les derniers mots, comme une pyramide sur une pointe.
Oui, c'est ça, le panache, oui. Non mais c'est un miracle, Cyrano. Rostand écrit ça effectivement assez vite, à la commande de Constant Coquelin, qui est un acteur en vue à cette époque. Et Rostand n'y croit pas du tout. Il pense qu'il a écrit un gros truc invraisemblable et injouable. Et Coquelin le soutient à bout de bras, ainsi que sa femme d'ailleurs, Rosemonde Gérard. Voilà. Et oui. Et alors toute cette pièce, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il faut arriver au dernier mot pour comprendre ce qu'elle veut dire, et que tout, depuis le premier acte, dans une construction absolument impeccable, et pour le panache, ça va être le grand mot d'Edmond Rostand, le panache.
C'est pas Coquelin qu'on va entendre, mais André Bruno, que Coquelin a présenté à Edmond Rostand et qui reprendra le rôle beaucoup plus tard, parce que cette pièce ne cesse d'être jouée.
Quand avez-vous joué pour la première fois?
Ah oui, ben j'ai joué Cyrano, c'est en 1927. Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre quand il vous plaît son feutre de traverse, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles. Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles.
Bon, la citation est courte, mais le format d'un livre comme le vôtre, aux éditions de l'Observatoire, et a fortiori celui de la Marge de l'Histoire, c'est trop étroit pour un auteur si prolixe.
Rostand est toujours surabondant, c'est le problème. Moi, je voulais faire des citations. J'ai fait des citations de Rostand dans mon livre, mais enfin, il fallait les raccourcir, quoi. Ça a été un combat pour essayer de donner idée, mais avec Rostand, il en faut tout de suite 40 vers.
Coquelin a eu sa pièce et son triomphe. Sarah Bernhardt revient. Elle veut sa pièce et son triomphe. L'Aiglon sera écrit pour elle en 2 ans. En coproduction, ils vont même aller bras dessus à Schönbrunn.
Oui, ils sont
en Autriche, là où
résident sur les lieux de l'action.
Le duc de Reichstadt. Ouais.
Oui, ils achètent des vieux meubles d'époque pour les mettre sur la scène. Enfin, ils font une documentation historique formidable. Voilà. Et alors, il y a une chose dont personne n'a l'air de s'étonner jamais, c'est que le rôle de l'Aiglon, qui est donc un jeune homme de 20 ans ou 21 ans, quelque chose comme ça, est confié à une femme, Sarah Bernhardt, qui a alors 56 ans. Et bon, apparemment, ça passe très bien. C'est quand même très étonnant. Et quand le rôle sera repris par Marie Marquet, on le donne aussi à une femme.
Voilà. Et une des dernières représentations à Paris, c'est Anne Delbé. Mais ici, nous, on rétablit le privilège masculin. C'est Pierre Vanneck qu'on va entendre dans L'Aiglon. C'est une production des disques Frémo. Et la curiosité que présente cette production, c'est que la pièce est présentée par Maurice Clavel, qui aurait pu certainement paraphraser, pasticher, écrire un Aiglon.
Une plaine immense, le champ de bataille de Wagram et des gens envahis de tous côtés par les sbires. Les conjurés sont pris, emmenés. Le duc, suprême insulte, on le laisse là, où irait-il? Sont à flambeau. À l'instant, il se poignarde. Le duc interdit qu'on le touche.
C'est Wagram, cette plaine. Wagram !
Wagram ?
Vois-tu Wagram ? Reconnais-tu la plaine, la colline et le clocher pointu ?
Oui.
Sens-tu sous ton corps la terre qui tressaille ? C'est le champ de bataille ? Entends-tu ? La bataille ?
La bataille ?
Entends-tu ces confuses rumeurs ?
Oui, c'est à Wagram, n'est-ce pas, que je meurs ?
Vois-tu passer traînant son cavalier par terre, ce cheval chabraqué d'une peau de panthère ? Nous sommes à Wagram. L'instant est solennel. Davout s'était lancé pour tourner Neucidel. L'empereur a levé sa petite lunette. On vient de te blesser d'un coup de baïonnette. Je t'ai transporté là, sur ce talus, et j'ai...
Est-ce que les chasseurs à cheval ont chargé?
Tout ce bleu qui est du blanc des baudriers serait, ce sont les tirailleurs là-bas.
Général Rey!
Mais l'empereur devrait t'envoyer Oudino. Mais il laisse enfoncer sa gauche.
Ah, le finot.
On se bat, on se bat. MacDonald se dépêche. Et Masséna, blessé, passe dans sa calèche.
L'archiduc s'étend sur sa droite, il se perd.
Tout va bien.
On se bat.
Le prince Hoerspère est pris par les lanciers polonais de la garde.
Et l'empereur? Que fait l'empereur?
Il regarde.
La conjuration dans laquelle a été prise la duc de Reichstadt est en train d'échouer. Il est seul avec ce laquais qui porte sous l'uniforme du laquais celui de grenadier, Flambeau. Et Flambeau, dites-vous, c'est le coup de génie de la rédaction de L'Aiglon.
Oui, parce que ce personnage de L'Aiglon, enfermé dans son château de Schönbrunn et dans toutes ses splendeurs viennoises, et puis qui est un velléitaire, et c'est pas un personnage tellement intéressant, avec toute la pitié qu'il peut inspirer. Et alors, Rostand crée le personnage de Flambeau, qui est le soldat français, le grognard, et il retrouve là l'esprit de Cyrano. C'est-à-dire, c'est le gars qui va se dévouer à une cause sublime, quitte à y laisser la peau. Voilà. Et Rostand aime ça. Voilà. Et ce grenadier Flambeau, je crois que c'est comme ça que Rostand a été populaire, parce que c'est vraiment le brave français de base, mais qui est loyal, qui est fidèle. Alors, bon, tout ça est un peu cocardier. Hein. C'est comme Cyrano, avec son épée, et ses beaux vers,
et les belles lettres faites à Roxane. En quoi ces deux pièces correspondent à un moment de la conscience nationale?
Cyrano et L'Aiglon sont un moment de la conscience nationale en France. Nous avons cette France humiliée par la défaite de 70, et qui le sait, et qui s'en souvient, et qui ressasse cette humiliation. Bon, je crois que le coup de génie de Rostand, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, je crois que non, c'était un peu instinctif, c'est de fournir à cette France des personnages qui vont la réconforter. Cyrano, comme Flambeau dans L'Aiglon, eh ben qu'est-ce que c'est? Aux yeux des gens de l'époque, c'est le héros français. C'est le héros français qui a de la bravoure, qui a de l'idéalisme, qui a du panache, qui a de l'esprit. Et voilà, il peut être vaincu, mais ça fait rien. Il est quand même supérieur à toute sa défaite. Et je crois que vraiment, c'est ce qui fait le triomphe de Rostand à cette époque.
Mais on est dans une époque de discorde civile.
Oui, bien sûr.
Affaire Dreyfus, à peine achevée. Oui. Rostand était Dreyfusard. Oui. Et voilà un Dreyfusard dont... les critiques nationalistes disent du bien des pièces.
Oui, oui, oui. Rostand réussit, à l'instant aussi, je crois, à mettre tout le monde d'accord. Des pièces comme Cyrano ou L'Aiglon mettent d'accord le catholique monarchiste, le républicain radical, tout le monde. Et personne ne peut résister à ça. Parce qu'on se retrouve enfin sur quelque chose entre Français. Je crois que c'est vraiment ce qui a été perçu à l'époque. Au moins, là, on est tous d'accord. Voilà.
Alors, imaginons maintenant les conversations, ne l'oublions pas, l'inoubliable Marie Marquet, avec Marie Marquet à la fin de sa vie, Marie Marquet qui a repris le rôle de L'Aiglon. Ils parlaient de la guerre, tous deux. Comment présentait-il d'ailleurs, je ne parle pas de la guerre de 14 seulement, mais la guerre en soi, il aimait la guerre, Wagram
Non, il aime la gloire, mais la guerre lui fait horreur. Simplement, en 14, Rostand considère que la France est attaquée sur son propre territoire, la Belgique a été piétinée au passage, et que par conséquent, il faut la défendre. Il ne se donne plus d'autre devoir que de contribuer à défendre le pays.
On y reviendra, mais la guerre mais vous ne voulez horreur. Pas présenter L'Aiglon comme un défilé de pantalons rouges, les soldats français à l'époque portant le pantalon rouge.
C'est-à-dire
on L'Aiglon. L'a dit, ça, parfois. Il y a quand même quelques adversaires de L'Aiglon.
Oui.
Dans la critique. Et puis, plus tard, dans le milieu du théâtre.
Oui, c'est-à-dire qu'on va faire, par moment, de Rostand une espèce de poète cocardier, sauf que Rostand, c'est pas Paul Déroulède. Rostand, c'est quelqu'un c'est un patriote, il aime la France, il croit que la France, c'est une belle chose. Et il veut la défendre. Voilà. Mais la guerre, il ne voudrait pas de la guerre. Simplement, il la reçoit comme un mal nécessaire. Il dit bon, puisqu'il y a la guerre, il faut qu'on se défende.
Second triomphe, après L'Aiglon et Cyrano, c'est l'Académie qui l'élit, oui. 33 ans.
33 ans.
Et vous dites, en fait, tout un peuple le demande. Tout un peuple demande sa personne, tout un peuple demande ses textes. Et il va être peu à peu, d'ailleurs, prisonnier de cette demande.
Oui, il va même s'enfuir. C'est-à-dire que il y a un malentendu, et Rostand, je pense, le sent, on le prend pour le nouveau Victor Hugo. Il a 30 et quelques années. Il sait bien, lui, qu'il n'est pas le nouveau Victor Hugo. D'abord, il n'a pas la puissance créatrice de Victor Hugo. Rostand est un homme qui est souffreteux, maladif, etc., souvent dépressif. Et il sent bien que le rôle qu'on lui donne, c'est un peu surdimensionné. Mais il va s'efforcer de le tenir. C'est l'homme qui veut bien faire. Voilà.
C'est le titre de votre livre.
Il souffre de ça.
Et d'ailleurs, de l'Observatoire.
Après L'Aiglon et son élection à l'Académie, il s'enfuit pour des années. Il se réfugie au Pays Basque dans sa somptueuse villa. Et il se fait attendre.
Alors arrêtons-nous un instant à cette villa. Si on la compare à la maison de Guernesey de Victor Hugo. Victor Hugo construit le décor de sa maison de ses propres oui. mains. Mmh. Tandis que Edmond Rostand fait appel au meilleur paysagiste qui lui dessine un jardin à la française et aux décorateurs qui lui font un décor étincelant au sommet de ce jardin.
Oui, et en même temps, on sait que Rostand, on a les lettres de Rostand à son architecte. Alors effectivement, il s'adresse au meilleur architecte possible, enfin, un des plus réputés de l'époque. Mais il lui écrit des lettres de 4 pages en disant oui. Alors à tel endroit, il faudrait mettre une petite arcade ou ceci ou cela. Non. Et il se fait construire ce décor.
Comment vous l'avez perçu ce décor quand la première fois vous aviez 15-16 ans
oui.
Parce que vous êtes passionné par Rostand depuis 15-16 ans. Vous avez forcé vos parents sur la route de l'Espagne à aller voir Arnaga.
J'ai traîné mes parents à Arnaga. Il pleurait, c'était quand même pas terrible. Mais bon, je voulais voir ça.
Et alors ?
Et c'est très émouvant et c'est un peu vide. C'est terrible. Cet homme se construit une sorte de maison féerique avec un jardin somptueux et on sent qu'il y a toujours été seul finalement, ou à peu près.
C'est bien ce que pense dans une excellente émission à laquelle nous avons fait souvent recours. Bonnes adresses du passé, Jean-Jacques Bloch.
Voilà la maison. Une maison hors du monde, faite pour le repos et la contemplation, ainsi que les 4 verres de l'entrée l'imposent. Toi qui viens partager notre lumière blonde et t'asseoir au festin des horizons changeants, ton cœur n'apporte rien du monde et ne raconte pas ce que disent les gens. Nous nous dirigeons vers l'immense hall-salon qui occupe au centre du logis la place principale. Et là, nous éprouvons un certain malaise. Quoi ? Cette retraite recherchée le plus loin possible de la capitale, à l'abri du tout Paris, des adulateurs comme des envieux, cette retraite ne serait qu'un luxueux décor du style cosmopolite en honneur sur les grands transatlantiques. Tout cela jure avec la simple façade basque de la maison. Tout ici est trop riche pour une maison, sans doute pas assez riche pour un palais. C'est seulement l'apparente richesse d'un palace. Vous savez, ce lieu où de riches oisifs ne font que passer. Alors faisons comme eux, passons.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de François Taillandier qui publie à l'Observatoire Edmond Rostand, l'homme qui voulait bien faire. Il n'a pas la puissance de Victor Hugo, il tombe malade d'être glorieux, il continue à produire, mais moins. Et il va retenir pendant des années et des années une pièce qu'on joue peu, mais qui est bien intéressante, qui s'appelle Chanteclair, où les acteurs apparaissent en animaux, qui parlent.
Oui, oui, c'est un pari étonnant que fait Rostand, faire parler des animaux en scène. Alors, en effet, pour des raisons qui sont très incompréhensibles, il retient cette pièce pendant 7 ou 8 ans. Son acteur fétiche, Constant Coquelin, le supplie de la donner enfin. Et le pauvre Coquelin meurt alors qu'enfin la pièce est prête et Constant s'est décidé à l'accepter. Et alors, c'est un pari théâtral absolument insensé, puisqu'il lui faut, je crois qu'il y a quelque chose comme 130 animaux qui apparaissent en scène, et Constant exige qu'il y ait des vrais costumes d'animaux, enfin, que ça soit parfaitement réaliste, c'est presque injouable.
Jean Rostand, l'un des deux fils de Maurice Rostand, le biologiste, raconte la préparation de cette pièce. Et ensuite, on en entendra un extrait trop court. Rostand est trop prolixe, par Paul-Émile Débert et Geneviève Cazil.
Dans Chanteclair, vous en souvenez, il y avait des crapauds, des insectes, il y avait même de la biologie. puisqu'il y avait une faisane qui change de plumage et toutes sortes de mutations de volailles, tous ces coqs dont il est question au troisième acte chez la Pintade. Je les avais vus dans le poulailler d'Arnaga à Cambo, car mon père avait fait venir pour les observer des échantillons de toutes les races de coqs, depuis le petit coq qui n'a pas de croupion jusqu'au grand combattant à crête rasée. Et surtout, je savais, ou je sentais plutôt, tout ce que mon père avait mis de lui, tout ce qu'il livrait de lui dans cette pièce qui ne ressemblait à aucune autre, même des siennes, et qui avait un ton de douloureuse confession. Seuls ceux-là qui ont approché mon père, qui ont vécu avec lui, qui ont assisté à ses doutes, à ses découragements, à ses désespoirs de créateur, savent tout ce qui peut tenir dans des vers comme ceux-ci.
Le secret de mon chant.
Oui.
Faisane dorée, mon secret.
Quelquefois, quand je suis à l'orée du bois, je vous entends dans les premiers rayons.
Ah, mon chant est venu jusqu'à vos oreillons.
Oui. Faites con. Oh non, mieux que ça. Regardez-moi sans rire. Votre secret.
Quoi?
Vous brûlez de me le dire.
Oui. Je sens que je vais le dire. Et que j'ai tort.
Ah oui, il a tort, expliquez-vous, François Taillandier. Chantecler va filer avec la faisane, séductrice, et ensuite se plaindre. Un héros de Rostand, complet, ne devrait pas faire ça.
Et oui, je pense que malgré... Cette pièce est belle, d'ailleurs, vous avez, le peu qu'on a entendu, c'est très touchant, tout ça. Mais enfin, on ne voit pas bien comment Rostand entend enthousiasmer les foules avec les complexes d'un coq qui croit qu'il fait lever l'aurore. Et alors, en plus, oui, il fout le camp avec cette fameuse faisane. Et après, il lui reproche d'être la séductrice, la femme qui détourne l'homme de son devoir. On est loin de Cyrano ou de Flambeau. Il y a quelque chose qui va pas. Et c'est dommage parce que c'est une pièce qui a des morceaux qui sont poétiquement extraordinaires.
Vous réhabilitez un chef-d'œuvre qui, ensuite, n'a pas été donné du vivant de Rostand et qui est donné très, 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 très rarement, c'est Don Juan.
Oui, sinon jamais.
C'est Don Juan.
La dernière nuit.
Le Don Juan d'Autriche ou le Don Juan.
Non, Don Juan, celui de Molière. Ouais. Rostand prend Don Juan là où Molière l'a laissé. Et donc, Don Juan obtient un sursis de la part du diable. Et 10 ans après, le diable revient. Enfin, j'abrège. Hein, et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que Don Juan va être confronté aux ombres des fameuses 1003 femmes qu'il a séduites. Et il va se rendre compte qu'il n'a séduit personne, qu'aucune n'a été dupe, qu'aucune n'a vraiment pleuré pour lui. C'est terrible, c'est une déconstruction du mythe de Don Juan au sens du séducteur. Et c'est d'une beauté...
Inscrivons ça au programme et au répertoire.
C'est une beauté extraordinaire.
Alors, est-ce que Marie Marquet était dupe? Les conversations pendant la guerre avec Marie Marquet, revenons-y, se répandaient pendant la guerre. Il allait mieux, finalement. Il allait dans les hôpitaux.
Oui, pendant la guerre, il se mobilise beaucoup. Enfin, il n'a pas pu combattre, il l'aurait souhaité. Mais il va aux hôpitaux, il s'occupe d'œuvres au profit des combattants, etc. Il écrit beaucoup de poèmes. On pense que Marie Marquet, enfin, pour le peu qu'on en sait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages, sinon le sien... Elle est complètement admirative devant lui, il lui lit les poèmes qu'il écrit, elle l'accompagne, elle le soutient, et voilà, je crois que c'est tout ce qu'on peut en dire. Et lui, sa préoccupation, c'est pas une histoire d'amour de plus, c'est la guerre.
Est-ce que ça c'est ridicule? C'est un poème qu'il dédie à un soldat qui a dû être copié par les institutrices, des mères de famille, lu un peu partout. « J'ai l'honneur d'être aimé d'un soldat simple et grave qui dit « Il fallait bien » lorsqu'on lui dit « Tu fus brave ». Et je sais que j'ai vu le plus beau geste humain le jour qu'il a daigné, dans le creux de ma main, mettre un morceau de plomb extrait de sa blessure.
Ben oui, moi je trouve ça très beau. Alors c'est un peu l'époque. On peut trouver que ça date un peu, ce genre de choses. Mais c'est beau parce qu'il avait vraiment ce souci. On sait qu'il allait à l'ambulance comme ça et tenir la main de soldats blessés, etc. Et oui, bon, ben, moi je trouve ça beau. Hein. Je trouve pas ça ridicule.
François Taillandier, Edmond Rostand, L'homme qui voulait bien faire, c'est aux éditions de l'Observatoire. L'émission a été préparée par Ilinka Negulesco, avec à la technique Arnaud Caillet. La réalisation, c'était Lise Combe. Et alors, qu'est-ce que nous avons
au programme, cher Mathieu Vidard.
Oui, Jean Lebrun, dans un instant, dans la tête au carré, on parlera des enjeux éthiques de la PMA, la procréation médicalement assistée, avec la sociologue Irène Théry, le
que vous saluez bien bas de ma
voilà,
part.
Elle est là, à ma droite. François Ancermet, qui est pédopsychiatre.
On vous retrouve donc peu après 14h.